Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 30 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Élection présidentielle hier au Mali, nous aurons notre envoyé spécial à Bamako, Jacques Aristide, et nos correspondants à Tombouctou et à Mopti.
Au Zimbabwe, c'est aujourd'hui qu'a lieu la première présidentielle depuis la chute de Robert Mugabe.
Référendum constitutionnel aujourd'hui également aux Comores pour un deuxième mandat présidentiel consécutif.
Au Cambodge, le parti du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 33 ans, crie victoire.
Ne manquez pas notre page pour...
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, des incidents ont émaillé le premier tour de l'élection présidentielle hier, mais des missions d'observation indiquent que globalement, les difficultés rencontrées n'entachent en rien le caractère équitable et paisible du processus, alors que le décompte des voix a démarré dès la fermeture des bureaux de vote. De Bamako, le point avec notre envoyé spécial, Jacques Aristide.
C'était un rendez-vous attendu et redouté, notamment face aux accusations de fraude éventuelles, mais le scrutin s'est déroulé dans des conditions jugées plus ou moins acceptables. Des incidents ont toutefois été notés. Boubacar Keïta de Wanep, attaché à la cellule de veille électorale.
Dans la région de Mopti, qu'on peut souligner quelques cas à Yuwaru, mais les cas les plus emblématiques nous parviennent de la région de Ségou. Dans le cercle de Nyono, plus précisément, dans la commune de Djabali et environnant, les villages de Mariko ont été secoués aujourd'hui par un certain nombre de groupes armés, d'individus armés non identifiés, et tout porte à croire qu'il s'agirait de groupes extrémistes. Alors ces groupes ont incendié pour la plupart 5 bureaux de vote et ils ont maintenu un chef de village en isoloir pendant un moment, naturellement peut-être pour le menacer. À Onsongo, ensuite, quelques incidents sont signalés, mais plus inquiétant était la situation à Tessalit dans l'après-midi où des obus ont été lancés dans le village d'Agelok plus précisément. Le mode opératoire habituel dans ces zones en matière de tir d'obus était que les camps des militaires étaient visés, mais cette fois-ci l'obus a tombé dans le village et on n'a toujours pas d'informations précises pour savoir s'il y a eu des morts ou des blessés.
Les observateurs électoraux étaient toujours à pied d'œuvre jusqu'à fort tard dans la nuit, suivant de près le dépouillement et le décompte des voix. Boubacar Keïta.
Quelques endroits où nos observateurs ont été interdits de participer à ce processus, mais dans l'ensemble, ils ont pu couvrir ce processus de dépouillement pour effectivement s'assurer de la présence de l'ensemble des délégués qui doivent être représentés dans le bureau de vote. Ma mission n'est pas naturellement de donner des tendances, il y a les autorités qui ont les voix les plus autorisées pour le faire, mais nous avons déjà une idée sur le scrutin et nous pensons que ça va être accepté ou acceptable par les uns et les autres.
Les premiers résultats sont attendus dans le courant de la semaine. De Bamako, Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, estime que le scrutin s'est déroulé dans le calme. L'équipe de campagne du leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, affirme de son côté que l'État a failli à sa mission de sécurisation du vote.
À Tombouctou, notre correspondant Abdoulaye Traoré a signalé un bon déroulement de l'élection malgré les prédictions pessimistes. Les autorités, il est vrai, ont mis en place un dispositif sécuritaire impressionnant, nous dit-il.
Ce dimanche, journée électorale au Mali. À Tombouctou, les électeurs sont répartis entre 255 bureaux de vote à travers 10 centres pour un potentiel de 29 418 électeurs. Malgré la pire cause liée à l'insécurité, les électeurs ont accompli leur droit de vote pour élire leur nouveau président, Mama Meiga.
Il est extrêmement important pour chaque citoyen de jouer sa partition afin de ne pas être à l'écart de la gestion du pays.
À Tombouctou, un des défis majeurs de ces élections, c'est la bonne tenue du scrutin. Sandy Haidara.
Contre toutes les mauvaises idées, contre toutes les mauvaises prédictions, contre tout ce qui aurait pu être nuisible à la tenue des élections, nous voilà le jour J, en train de voter dans la tranquillité.
Cette année, le contexte est très particulier à cause de la recrudescence des violences. Mais le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités rassure. L'organisation de ce scrutin a été saluée partout les acteurs. Aucun incident n'a été signalé. Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
Dans la commune de Mopti, les opérations de vote se sont déroulées normalement, même si on a signalé des incidents ailleurs dans la région. Les précisions de notre correspondant Mamadou Boukoum.
Les Mopticiens ont décidé de venir remplir leur devoir de citoyenneté. Amina Kanta a voté au groupe scolaire Robert Sissi.
Chaque citoyen a le droit de voter. Puisqu'il faut choisir celui que tu aimes pour que tu ne sois pas gouverné par celui qui t'y aille. Donc vraiment, pour tout progrès, ça ne peut pas passer sans les votes.
Entouré de ses amis, Ousmane Mahamane Maïga les sensibilise sur l'importance du vote.
Voter, moi je pense que c'est un devoir civique. Si on n'a pas eu le courage de venir voter, maintenant après les votes, on ne peut pas quand même critiquer le président. Moi je lance quand même un cercle de cœur à tous les Mopticiens. Après la politique, Mopti reste.
Dans les centres de vote, on voyait la présence des forces de sécurité et des observateurs internationaux et nationaux. Voici le constat d'un d'entre eux qui a voulu garder l'anonymat.
Nous avons vu quelque part quand même toutes les dispositions ont été prises, mais il y a des défaillances à certains niveaux parce que nous avons constaté que dans certains bureaux de vote, il y a un certain nombre de matériel qui manque et surtout il y a l'absence des cartes de lecteurs qui n'ont pas été retirées dans certains bureaux.
Dans le reste de la région, des élections n'ont pas pu se tenir dans beaucoup de communes. Principale raison, l'insécurité. La région de Mopti, faut-il le rappeler, compte 1 801 000 électeurs répartis entre 3 260 bureaux de vote. Mamadou Boukouma Mopti pour VOA Afrique.
Au Zimbabwe, les électeurs doivent choisir ce lundi leur président. Députés et conseillers municipaux, ce sont les premières élections depuis la chute de l'ancien président Robert Mugabe, qui a fait une sortie remarquée hier. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'ex-président Robert Mugabe a appelé les électeurs à faire tomber son ancien parti, la ZANU-PF, qui l'a poussé vers la sortie en novembre après 37 ans de règne. « J'espère que le vote va faire tomber la forme militaire du gouvernement actuel », a lancé M. Mugabe dans une intervention surprise depuis sa résidence de Blue Roof à Harare. « Je ne peux pas voter pour ceux qui m'ont maltraité », a poursuivi l'ex-chef de l'État. Lors d'une intervention à la radio d'État, le président Mnangagwa a affirmé que les événements de novembre 2017 ont donné au Zimbabwe l'occasion de rêver de nouveau. M. Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, est donné favori du scrutin devant Nelson Chamisa, propulsé à la tête du MDC après le décès de son leader historique Morgan Tsvangirai. Emmerson Mnangagwa et Nelson Chamisa sont les favoris devant les 21 autres candidats. L'écart entre les deux s'est récemment réduit. Le président sortant est crédité de 40% des suffrages contre 37% pour son principal adversaire, d'après un sondage publié il y a 11 jours par le groupe Afrobaromètre. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour sera organisé le 8 septembre.
Les Comoriens, eux, sont appelés aujourd'hui à se prononcer par référendum sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président et ancien putschiste Azali Soumani de se représenter pour un deuxième mandat consécutif. Ce projet renforce aussi et considérablement les pouvoirs du chef de l'État. L'actuelle constitution interdit deux mandats consécutifs. Pour l'opposition, il s'agit d'un scrutin illégal.
Le roi Mohamed VI a longuement évoqué dans un discours télévisé prononcé hier soir la question sociale au Maroc, exhortant le gouvernement à prendre des mesures d'urgence, notamment en matière de santé et d'éducation. Malgré les réalisations accomplies, j'ai le sentiment que quelque chose continue à nous faire défaut en matière sociale, a déclaré Mohamed VI dans une allocution marquant le 19e anniversaire de son accession au trône et prononcée dans la ville septentrionale d'Al-Hoceima, épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et économiques qui a agité le pays en 2016 et 2017.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cambodge, le parti du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 33 ans, a revendiqué une victoire écrasante aux législatives de dimanche, un scrutin très controversé en l'absence de la principale force d'opposition dissoute en 2017. Nous espérons gagner plus de 100 sièges sur 125, a déclaré le porte-parole du Parti du peuple cambodgien, le PPC. Les résultats définitifs doivent être officialisés le 15 août.
Le président américain Donald Trump a menacé hier de provoquer un nouveau shutdown du gouvernement fédéral, c'est-à-dire une fermeture, si le Congrès ne finance pas la construction du mur qu'il veut à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Il a affirmé dans un tweet que l'opposition démocrate doit lui donner les voix pour l'adoption de son projet de sécurité des frontières, y compris le mur, ainsi que d'autres changements plus durs de la politique d'immigration des États-Unis. On doit se débarrasser de la loterie d'arrestation et libération, etc., en fin de compte aller vers un système d'immigration basé sur le mérite, a poursuivi M. Trump. Mais ce sont les divisions au sein de la majorité républicaine au Congrès et l'opposition totale des démocrates qui ont fait échouer à deux reprises ces dernières semaines les changements souhaités par M. Trump.
Par ailleurs, le président Trump a déclaré hier avoir dit récemment au directeur de la publication du New York Times comment il en est arrivé à qualifier les médias généralistes américains d'ennemis du peuple. Mais Eddie Sulzberger, le patron du prestigieux quotidien américain, a dit avoir souligné à son tour que le langage du président était incendiaire et de plus en plus dangereux pour les journalistes à travers le monde. Avant de passer à ennemis du peuple, M. Trump a toujours parlé de fake news, c'est-à-dire de fausses informations. Il a, dans une série de tweets, attaqué hier non seulement le New York Times, mais aussi le Washington Post.
Signalons aussi que le président Trump a accusé dimanche le procureur spécial Robert Mueller d'avoir des conflits d'intérêts qui devraient lui interdire de mener l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Dans une série de tweets dans lesquels il attaque la crédibilité du procureur spécial, M. Trump déclare avoir eu au cours des années, et je cite, « une relation d'affaires très mauvaise et conflictuelle avec M. Mueller ».
Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
À présent, les sports avec Élisée Oumkouatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF.
Oui, et trois clubs ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale. L'Espérant de Tunis, après sa victoire 1-0 à Kampala, compte 10 points au classement et se qualifie suite à la victoire d'Al Ahly devant Tomsheed Rollers. L'autre club tunisien, l'Étoile du Sahel, s'est également qualifié pour les quarts en battant Mbaban Swallows. Le troisième club qualifié est le tout-puissant Mazembe. Fort de leur sans-faute en phase aller, les Corbeaux ont assuré le nul 1-1 suffisant lors de cette quatrième journée pour assurer leur qualification face au MC Alger.
Rien n'est encore joué dans le groupe C.
Le champion en titre se rapproche tout de même de ses quarts de finale suite à sa victoire de 2-0 contre les Guinéens de Oroya. Malgré sa première place au classement, le Wydad de Casablanca reste sous la menace de ses concurrents. Dans l'autre match de ce groupe, le Mamelodi Sundowns a eu raison de l'Est au groupe 2-0. Les Sud-Africains se replacent ainsi dans la course à la qualification.
Quatrième journée également en Coupe de la Confédération, mais aucun club ne s'est qualifié pour les quarts de finale.
Effectivement, Idrissa, dans le groupe B, Renaissance de Berkane aurait pu être le qualifié de cette journée. Les Marocains ont été défaits 1-0 en Égypte par Al Masri, qui prend du coup la tête du groupe. USM Alger a également raté une belle occasion de se qualifier. Les Algériens, tenus en échec à domicile 1-1 par les Rwandais de Rayon Sport, ont cédé leur première place au Kenya de Gomaya, vainqueur 3-2 en Tanzanie des Young Africans.
Élisée, d'autres clubs se rapprochent de la qualification.
Oui, et c'est le cas de Williamsville, vainqueur 2-0 des Nigérians d'Enimba. Les Ivoiriens virent donc en tête du groupe B avec 7 points, juste devant le Kara de Brazzaville, victorieux 1-0 des Maliens de Djoliba. Et puis dans le groupe A, bonne opération de l'ASV Club de Kinshasa qui a dominé les Ghanéens d'Adouana Stars 2-0. Les Congolais consolident leur deuxième place derrière les Marocains du Raja de Casablanca qui ont été sans pitié pour la SEC d'Abidjan battue 4-0.
On retourne en Tunisie pour signaler que Faouzi Benzarti est le nouveau sélectionneur.
Le technicien tunisien a été nommé en succession à Nabil Maloul. Il va donc quitter le banc du Wydad de Casablanca pour les Aigles de Carthage pour une durée d'une année renouvelable. La dernière expérience de Benzarti avec la sélection était durant la CAN 2010 en Angola où l'équipe avait réalisé 3 matchs nuls et a quitté la compétition dès le premier tour.
Cyclisme pour finir avec l'épilogue du Tour de France 2018. Remporté par Geraint Thomas.
Le coureur de Sky est sorti vainqueur de cette course qui s'est terminée au sprint sur les Champs-Élysées avec une victoire d'étape pour le Norvégien Alexander Kristoff. Le Gallois de 32 ans devance au classement final le Néerlandais Tom Dumoulin et le vainqueur sortant le Britannique Chris Froome au bout des 3351 km.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour avec notre envoyé spécial à Bamako sur les élections d'hier au Mali. Près de 8,5 millions d'électeurs inscrits avaient le choix entre 24 candidats dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal rival, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. De Bamako donc, Jacques Aristide.
C'est après une pluie fine que les électeurs se sont rendus aux urnes dans la capitale, comme ici dans le quartier présidentiel de Sébini-Koro, où le mouvement était assez fébrile.
Je suis venue voter en tant que malienne. Et puis c'est un droit de voter. Les changements que j'attends, c'est s'ils pouvaient aider les femmes à s'améliorer les conditions de vie et puis créer des centres de santé pour soigner les enfants et les dames.
C'est un devoir civique. Il faut que j'accomplisse ces devoirs. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu voter, comme tous les bons citoyens.
Le Mali est en proie à des attaques djihadistes dans le nord, malgré un accord de paix paraphé en 2015, de même qu'à des affrontements intercommunautaires dans le centre. Certains des Maliens qui ont voté ce dimanche espèrent définitivement tourner la page sur l'instabilité qui a trop duré. Maïga Ademaïga, des mouvements armés de la plateforme signataire de l'accord de paix.
Moi, je demande un apaisement total, parce qu'on ne peut rien avoir dans la violence. La violence ne résout rien. On ne veut pas la violence, vraiment. On est des croyants, on est des musulmans. Il est temps qu'on apaise ces élections-là, que le maire gagne. Que le maire gagne.
D'ailleurs, le gouvernement a déployé 30 000 hommes pour la sécurisation du vote. Ismaël Sako, du camp au pouvoir.
Depuis 6 mois, nous avons une armée sur le terrain en collaboration avec les forces étrangères qui traquent, qui pourchassent, qui remportent des victoires. Maintenant, sur le plan de la paix, aujourd'hui, vous remarquez que c'est le candidat qui, à la fois, est consensuel, mais qui n'est pas typé ethniciste. C'est le candidat du peuple qui brasse le nord et le centre et le sud.
Mais il y a d'autres défis. Le pays est l'un des plus pauvres de la planète et pâtit d'un chômage élevé. Oumar Keïta, un jeune de 29 ans, a accordé sa faveur au candidat qui, d'après lui, va créer de l'emploi.
Et c'est moi, il a dit que lorsqu'il sera élu président de la République, parce que chaque année au Mali ici, il y a des milliards qui disparaissent. Donc il dit qu'il va essayer d'employer les jeunes comme des vérificateurs, quoi. Donc ces jeunes-là vont essayer, n'est-ce pas, de travailler. Et les milliards qui disparaissent, il va essayer de donner ça aux jeunes.
L'accord trouvé à la veille du scrutin sur le fichier électoral n'a pas totalement dissipé la crainte de fraudes éventuelles. Mais les autorités rassurent. Maïga Maria Maïga, des collectivités territoriales.
L'opinion internationale, l'opinion africaine, tout le monde est là pour veiller à la bonne marche de cette élection. Il ne peut pas avoir de tricage. Dans la mesure où tout le monde est associé. Et l'opposition et le parti gouvernemental, tout le monde est associé, donc il ne peut pas avoir de tricage.
Les observateurs électoraux étaient à pied d'œuvre pour surveiller le processus.
Le président du bureau du vote, à 7h déjà, il était déjà présent, tout était déjà mis en œuvre. Et puis apparemment quand même, il n'y a pas d'incident quand même à signaler.
Pas d'anomalie, seulement il y a des gens qui cherchent le bureau de vote, qui me demandent si par là. Donc à part ça, je pense que tout va bien.
Les Maliens sont désormais dans l'attente des résultats. Les premiers devraient être connus dans le courant de cette semaine, avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako, Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, à 2 ans de la présidentielle de 2020, les principaux partis politiques affûtent leurs armes. C'est notamment le cas du Front populaire ivoirien, le FPI, qui vient d'organiser son 4e congrès, nous dit notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
8 ans après avoir perdu le pouvoir d'État et à 2 ans de la prochaine échéance présidentielle,
Le Front populaire ivoirien a battu le rappel de ses troupes ce week-end à Abidjan à l'occasion de son 4e congrès. Un congrès qui a vu la réélection de Pascal Affi-Nguessan à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Un rassemblement au cours duquel il a été beaucoup question de la nouvelle alliance qui se dessine dans le pays autour du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Pascal Affi-Nguessan, président du FPI.
La conclusion d'un accord politique, d'un large accord qui pourrait aller au-delà même du PDCI pour prendre en compte toute l'opposition, toutes les formations politiques qui veulent le changement autour de questions fondamentales pour notre pays, comme la question de la réconciliation nationale, de la restauration de l'État, d'un État démocratique, d'un État républicain. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption est un chantier important autour duquel nous pouvons rassembler des formations politiques.
Konaté Navigué, président de la jeunesse du FPI, sur quelques défis qui attendent le parti.
Vous savez qu'on a 2 ans de 2020 et il était important qu'on vienne voir nos forces et nos faiblesses. Et ce congrès nous a permis d'avoir un instrument de bataille qui va bientôt se mettre en place sur le terrain. Il y a des défis à relever. La commission électorale, par exemple, c'est un défi. Nous voulons son changement. Nous voulons une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les gens cessent de raser les maisons des gens sans avoir trouvé des habitations. Beaucoup de défis sont à relever et je pense que avec ce congrès et après ce congrès, on est prêt à relever ce défi.
Venus des quatre coins du pays, les militants du FPI se disent satisfaits de ce 4e congrès.
Moi, c'est Assi Bernabé, secrétaire de section à Coupé. Et ce que nous attendons du FPI, c'est que en l'an 2020, que nous allions aux élections et que nous remportions.
Le camarade Kwame Gorangari, je suis très satisfait. J'ai vu que vraiment le FPI vit. Et je veux que vraiment en l'an 2020, le FPI soit au pouvoir. Malgré qu'on dit que le FPI est divisé, mais vous avez vu ce monde qui est arrivé.
Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Bénin, débat houleux au sein de la classe politique sur l'adoption éventuelle d'un nouveau code électoral à l'initiative des députés proches du pouvoir. Leur intention, c'est le toilettage du texte qui est en vigueur depuis la conférence nationale de février 1990. Mais dit-on, la transparence des élections à venir pourrait bien en dépendre. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Avec 397 articles, le nouveau code électoral est pourvu de grandes réformes. L'une d'elles, d'ailleurs la plus contestée, est relative aux conditions d'éligibilité pour l'élection des députés. En plus des conditions connues depuis 1990, le nouveau texte exige un quitus fiscal devant accompagner la déclaration de candidature. Certains y voient une volonté manifeste du gouvernement à écarter des élections législatives des gens capables de contrôler l'action gouvernementale. La plateforme des organisations de la société civile applaudit cette exigence, ainsi que le critère de résidence d'un an au Bénin avant les élections. Mais elle appelle à étendre ces critères jusqu'aux élections présidentielles.
La plateforme est en accord avec l'exigence d'une citoyenneté exemplaire et promeut toutes les dispositions qui exigent que tout citoyen soit en règle avec le fisc dans notre pays. Elle appelle cependant à faire la part des choses entre la personne physique, candidat, et la personne morale.
Mais pour le juriste Nouroudine Saka Salé, le critère relatif à la résidence au Bénin pendant un an avant les élections est un obstacle sur le chemin des Béninois de la diaspora qui désirent revenir chez eux aux fins de participer à l'animation de la vie politique.
Moi, je serais tenté de dire qu'il ne faudrait pas corser les conditions d'accès à la candidature. Je comprendrais plutôt qu'on dise que le député élu a l'obligation de résider sur le territoire une fois l'élection acquise. Mais parler d'une résidence antérieure d'une année, ça peut apparaître en fait comme un critère d'exclusion d'une certaine catégorie de personnes.
L'autre aspect de ce nouveau code qui fait bomber le torse de l'opposition est lié au couplage des élections. L'intention, selon les députés, serait de faire des économies et de finir avec le fait que le Bénin soit tout le temps en train d'organiser des élections au lieu de consacrer le temps et les ressources à la construction du pays. Mais pour le nationaliste Irénée Agossa, il s'agit d'une illusion créée en vue d'échapper au contrôle de l'action gouvernementale par le peuple.
Pourquoi le contrôle de ce peuple gêne? Ça gêne parce que simplement, on veut aujourd'hui qu'après 90 jours, que le président soit élu, qu'il ait sa majorité et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut durant 5 ans. C'est pas possible. C'est pour vous dire que nous n'avons pas besoin de ce couplage. Nous pensons que, de notre côté, ce qui est urgent, c'est plutôt Si on doit coupler, c'est les législatives et les communales. C'est ça ce qui est important.
Déjà, plusieurs séminaires et ateliers pour expliquer le bien fondé de ce toilettage qui ne reçoit pas l'assentiment de toute la classe politique. Maître Adrien Rungedji, président de l'Assemblée nationale, précise ici qu'il ne s'agit pas d'une intention malsaine, mais d'un souci de rendre plus fort cet arsenal sur lequel se reposent les élections au Bénin.
Certes, nos élections n'ont pas fait l'objet de contestations violentes, mais l'absence de contestations violentes n'est pas une preuve de ce que le système est entièrement satisfaisant. Nous nous devons donc de le reprendre, de le corriger et de faire en sorte qu'il devienne stable, pérenne et fiable.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Sénégal, Orange, le principal opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès Internet, subit le courroux de ses clients suite à la suppression du cumul des passes Internet. Ce qui au départ était une simple vague de contestation s'est transformé en quelques jours en un vaste mouvement de boycott. Les clients qui payaient 1500 francs CFA pour cumuler le passe Internet, eh bien, à un autre d'une validité d'une semaine, devront maintenant débourser jusqu'à 7000 francs par semaine, soit 1000 francs par jour, pour avoir accès à Internet dans les mêmes conditions. De Dakar, Sédina Abagay pour VO Afrique.
C'est une véritable vague de contestation et de critiques que subit l'opérateur de téléphonie Orange, surtout auprès des jeunes Sénégalais qui se sentent lésés par la nouvelle formule de connexion Internet. Binta est une jeune étudiante. Elle trouve le boycott légitime.
Tous les jeunes n'ont pas les mêmes revenus. 1500 francs pour avoir de la connexion pour une semaine, c'était vraiment très bénéfique pour eux, pour être en contact avec le monde extérieur et tout. Donc si aujourd'hui on enlève cette possibilité d'avoir de la connexion pour une semaine, disons que ça les coupe carrément du monde extérieur. Donc je pense qu'on devrait, même si ils se sont rendus compte à la fin que c'était juste une faille, que c'était pas normal, ils devraient quand même essayer de proposer un service pareil qui permettra aux jeunes d'avoir assez de connexion Internet pour une semaine.
Au-delà de cette nouvelle formule de connexion, c'est le système d'exploitation d'Orange qui est remis en cause. Abdou Thiam, technicien informatique, estime que la société de télécommunications abuse de ses clients aux revenus modestes.
On est colonisé par Orange. Je ne sais pas qui est derrière. On ne peut pas expliquer totalement ce qui se passe ici avec Orange. Chaque fois, ils nous volent. Chaque fois, ils font des milliards de bénéfices. Alors qu'au Sénégal, les gens n'ont pas quoi manger. Tu achètes un crédit de 1000 francs, tu fais un pass Internet, ça prend juste 24 heures. Est-ce que c'est anormal? Parce que c'est ton argent, tu l'as acheté. Ça doit être illimité. Bah, on ne doit pas te forcer pour utiliser ton crédit ou ne l'a pas utilisé.
Rosalie est une jeune juriste. Elle estime que pour faire plier Orange, il faudrait d'abord briser sa mainmise sur les réseaux télécoms.
Je pense que ça n'aura pas un aussi grand impact, sans pour autant vouloir être négatif, ça n'aura pas un aussi grand impact que voulu en tout cas. Orange a un monopole incroyable par rapport aux autres soi-disant concurrents comme Tigo et Expresso. Et Orange a une base clientèle tellement énorme que quelques Sénégalais qui décident de ne plus acheter certains passes parce qu'ils coûtent cher ou parce qu'ils ont une durée limitée ne peuvent pas forcément atteindre leur objectif ou en tout cas impacter d'une manière conséquente Orange et son business.
Au Sénégal, un énième combat est mené contre les abus de la société leader en téléphonie et accès Internet. Cette fois, le mouvement semble avoir une plus grande portée car des milliers de jeunes ont manifesté leur courroux suite à la suppression du cumul des passes Internet qui leur permettait d'avoir un accès à Internet à moindre frais. Malgré cette vague de contestation, Orange n'a pas encore répondu aux revendications de ses clients, se contentant juste d'un tweet pour prendre acte des doléances. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
I'll take you places where you've never been.
fin d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Et à Georges-Léonard Sagno pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.